On a lu ce Shabbat, par cette Shemot. Alors le texte, il dit, Yocheved, elle a fabriqué un petit bateau avec des roseaux. Vatachmara b'cheimaru bazafet. Elle a enduit ce bateau avec de l'argile, l'extérieur avec du goudron. Elle a mis l'enfant dedans. La fille de Paro, elle est passée. Elle a ouvert, elle a vu le garçon y pleurer. Elle avait pitié de lui. Celui-là, il est des enfants juifs. Ce qui est difficile dans ce verset, elle a pris de l'argile, elle a enduit le bateau. Pourquoi elle a fait ça? À quoi ça sert l'argile? À quoi ça sert le goudron? Pour rendre imperméable, parce que sinon l'eau il va rentrer, il va se noyer. Bon, c'est évident. On ne met pas un bateau dans l'eau s'il n'est pas imperméable. Alors pourquoi la Torah nous le raconte? Mais quelle est l'utilité que la Torah nous raconte des choses qui sont évidentes? Elle a fait un bateau, chacun s'il comprend qu'il s'agit d'un bateau qui est imperméable. La Torah nous insiste, non, il s'agit d'un bateau que Yocheved, il était assez intelligent d'induire avec de l'argile. Mais ça n'a pas de sens, ça on le sait. Après le texte, il dit, « Vine na'ar boche » Les garçons, ils pleuraient. Na'ar. Normalement, c'est un yelet. C'est un garçon. Quel âge il avait? Il avait 3 mois. Donc, s'il a 3 mois, il devrait pleurer comme un bébé qui pleure de 3 mois. Or, le texte, il dit Na'ar. Na'ar, c'est un jeune homme. C'est quelqu'un qui a 15 ans. Pourquoi la Torah nous raconte qu'il a pleuré comme un enfant de 15 ans? Qu'est-ce que ça change? Il a pleuré, c'est tout. Après le texte, il dit, la fille de Paro, il a dit, « Mialde ha-ivrimze » Celui-là, il est des enfants juifs. Comment elle savait? Elle se dit, « Qu'est-ce qu'il fait ici un enfant qui flotte sur le Nil? Mais ce n'est pas normal. »« Ah, sûrement, il fait partie des enfants juifs qu'on a décidé de le jeter dans le Nil. » Donc sa mère ne voulait pas qu'il se noie, elle l'a mis dans un bateau. Donc elle a conclu, « C'est un enfant juif. » Très bien, c'est une bonne conclusion, c'était d'ailleurs juste. Mais le texte, il aurait pu se contenter de dire, en tout cas la fille de Paro, il aurait pu se contenter de dire « Yelet Ivri Ze ». Celui-là, c'est un enfant juif. Elle n'a pas besoin de parler d'autres enfants, « Mialdei Haivrim » pluriel. Ce n'est pas ça la question du pluriel. Il s'agit de ce garçon-là, il est quoi? Il est juif ou il est égyptien? Elle a conclu qu'il est juif. Alors très bien, Yelet Ivrizé, c'est un enfant juif. Pourquoi elle parle de pluriel? Mais le pshat, il est, Moshe Rabbeinu avait plusieurs fonctions. Il était le Navi d'Hachem. Il était le prophète d'Hachem qui enseignait la Torah, amenait les juifs au matin de Torah. Mais il n'y était pas seulement le Navi pour leur enseigner la Torah. Il était aussi là pour discuter avec Paro. Il était là pour sortir les Juifs de Mitzrayim. Il était là pour conduire les Juifs. Il était le chef des Juifs. Grâce à lui, les Juifs, ils avaient de la manne. Quand les Juifs, ils étaient en danger gashmi, c'est lui qui s'occupait. Quand il y avait un problème, c'est lui qui s'occupait. Quand Hachem, il était fâché, c'est lui qui priait. La Gemara nous dit qu'il était Navi, il était Melech. Il avait un din de Melech comme un roi. Un roi, il doit s'occuper de la parnassa du peuple juif, de la défense du peuple juif. Et bien, Moshe Rabbeinu, il a défendu les juifs en Égypte. Il a défendu les juifs dans le désert. Il a défendu les juifs contre la Médata Din qui accusait les juifs. Il leur donnait parnassa, il faisait tout. Maintenant, pourquoi Kadesh Baruch, il a donné tous ses rôles à Moshe? Si Hachem l'avait voulu, il aurait pu partager le rôle. Au début, il avait voulu le rôle, donner encore un rôle à Moshe d'être le Kohen Gadol, Mais comme Moshe Rabbeinu, il a tellement insisté qu'il ne veut pas trop, Hachem, il a pris la kouna, il l'a donnée à Aaron. Au début même, la kouna, Hachem voulait lui donner. Mais pourquoi il lui a donné tous ses rôles? Il aurait pu leur donner le rôle d'enseigner la Torah, par exemple. Il est le Navi, matin de Torah, il enseigne la Torah. Maintenant, conduire les Juifs, s'occuper de donner la manne aux Juifs, etc., il aurait pu nommer une autre personne. Non, Hachem, il a nommé, et ce sera Moshe. Et quand il y avait une réclamation, ils se sont pris à Moshe. Quand ils voulaient jeter des pierres, parfois, ils ont voulu jeter des pierres sur Moshe. Pourquoi Moshe, il est obligé de tout faire? Pourquoi il a besoin de cumuler toutes ses fonctions? Mais ici, la Torah nous dit quelque chose de très important. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah Har Sinai. La Torah, c'est quelque chose qui est parfait. Et il faut transmettre ce message, un message qui est parfait au peuple juif. Mais les gens ne sont pas parfaits. Les Juifs en Égypte, ils n'étaient pas parfaits. Ils ont abandonné les mitzvot qu'Abraham et Yaakov leur ont enseignées. Ils avaient peu de mitzvot. Maintenant, il fallait les changer. Il fallait leur donner la Torah. Il fallait les éduquer. Il fallait leur enseigner. Mais on prend un Amaharetz. On prend des gens qui n'ont pas vécu comme religieux. Et on veut les rendre religieux. Ah, c'est pas si facile. C'est pas si facile, on voit. On voit les 40 ans que Moshe Rabbeinu est passé avec les Juifs. Les choses se sont passées pas glattes. Il y avait Eze Esser Pa'amim Velo Shamu Bekoli. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas facile pour des gens d'accepter de changer toute leur vie pour devenir tzadikim. C'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'il doit faire un enseignant qui enseigne à des gens? Et il y a une grande différence entre l'enseignant et l'élève. L'enseignant, c'est le plus grand racham. Et un cadeau, c'est un homme parfait. Et les élèves, ils sont loin. Ah, comment ça va passer? Eh bien, il faut que le maître, il sera très modeste, et il faut qu'il a beaucoup de patience, et il faut qu'il accepte que l'élève ne suit pas comme ça pour la première fois, que ce sera difficile, et il y aura des moments où l'élève, il avance bien. Il y a des moments où l'élève, il recule. Et il avance, il recule. Il n'est pas content, il fait la tête. Après, il est joyeux. Après, ça va mieux. Et bien, c'est comme ça, l'enseignement. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il a fait. Alors, Moshe Rabbeinu devrait avoir beaucoup de patience, ce qu'il a d'ailleurs eu. Une fois, il s'est énervé, mais il me riva. Ça a été compté comme une faute. Il était très modeste, sinon il n'aurait pas pu enseigner. Maintenant, les Juifs, en Égypte, ils ont souffert. Quand quelqu'un souffre beaucoup, quand quelqu'un il est traumatisé, eh ben, normalement ça laisse ses stigmates. Quand quelqu'un a souffert, il était malade, il était humilié, il s'est fait frapper, ça prend beaucoup de temps pour guérir, pour... Maintenant, un enseignant qui est toujours en bonne santé, qui n'a jamais souffert, il a affaire avec quelqu'un qui a souffert. S'il ne sent pas ce que l'autre il a passé, il aura peut-être du mal à faire passer le message qu'il veut faire passer. Pour faire passer un message à l'autre, il faut avoir de l'empathie, il faut être capable de sentir la situation que l'autre, il a senti, il a vécu. Alors, Moshe Rabbeinu, il était un Lévi. Les Lévis, ils ne travaillaient pas à Mitzrayim. Ils n'étaient pas frappés. Ils n'étaient pas humiliés, presque pas. De plus, Moshe Rabbeinu était élevé après dans le palais royal. Ah, il était même nommé, Paro, il a nommé, Rashi raconte, Vaigdal Moshe, il était nommé pour gérer la maison de Paro. Lui, c'était l'intendant dans le palais royal. Ça, c'est 1000 kilomètres loin de quoi? De ce que les Juifs faisaient en Égypte. Alors, Yochevet, elle se dit, ce Moshe, Myriam, qu'est-ce qu'elle a dit Myriam? j'aurai un frère qui va sauver les Juifs de Mitzraïm. Donc ça a été prévu, quand il est né d'ailleurs, la maison s'allumait les lumières. Yocheved, elle savait, c'était des Nevi'im. Il savait que ce Moshe, il va conduire les Juifs, il va faire sortir les Juifs de Mitzraïm, très bien. Mais Moshe, il ne travaille pas dans les briques. Les Juifs travaillaient dans les briques. Ils faisaient du chomer ou bilveinim, de l'argile ou bilveinim et des briques. Toujours la Torah répète le mot leveinim. Et le texte dit après, et quand il manquait de leveinim, quand il manquait des briques, eh ben, les Égyptiens ne lâchaient pas. Ils obligeaient, il n'a pas le droit de manquer une brique. Et s'il manquait une brique, eh ben, c'était la catastrophe. La Gemara nous dit, quand un juif il n'a pas terminé de faire le tochen levenim titenu, le nombre de briques qu'il fallait fabriquer, alors ils ont pris son enfant, son bébé, et on l'a mis comme brique. Après, on a mis de l'argile autour. Et l'enfant, il a pleuré jusqu'il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont gagné les Égyptiens? Ils ont doublement gagné. Bon, ils ont gagné une brique. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme brique un bébé. En tout cas, ils ont gagné que le père, il travaillait le lendemain plus fort. Parce que si tu n'amènes pas le brique, on t'amène ton enfant. Alors, travaillez comme des malades. Alors, Magma nous raconte que Moshe Rabbeinu, un jour, il est passé devant un mur. Il a entendu un enfant pleurer qui était emmuré. Il a dit, Hachem, je veux le faire sortir. Hachem n'était pas très content. Mais il a quand même sorti, il a permis. Cet enfant, c'était le fameux Micha, qu'après la Torah. Tanakh nous raconte sur ce Micha, qu'est-ce qu'il a fait. Où il y a une allusion dans la Torah qu'il mettait les enfants à la place des briques, c'est dans le mot Leveinim. Leveinim, c'est le Banim. Vous devrez apporter de Leveinim, sinon le Banim, c'est les garçons, c'est les enfants qui vont remplacer ces briques. Donc les Juifs, ils travaillaient dans Chomer ou Bilveinim. Qu'est-ce qu'elle a fait au Yocheved? Yocheved, elle a dit, mon fils, il doit sentir qu'est-ce que c'est un enfant qui est emmuré autour de lui de l'argile. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que la Torah dit? Va tachmera, va cheimar ou bazafet. Elle a enduit ce bateau avec de l'argile. Elle a fermé en haut. Le texte dit va tiftach. Le fils de Poro, il a ouvert. Donc il y avait un couvercle. Donc Moshe, il était entièrement entouré par l'argile. Et quand Yocheved, elle a enduit ce bateau avec de l'argile, c'est pas seulement pour rendre imperméable, ça c'est une évidence. Et ça c'est évidemment. Mais c'est pour qu'il sent qu'est-ce que ça veut dire enfermé avec l'argile autour. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend de l'argile, on met autour. Et l'enfant, il va sentir quoi? Il va sentir ce que les autres enfants y sentent. Ça dépend comment tu enduis. C'est Chomer. La Gemara nous raconte que Rebbi, quand il a fait les Mishnayot, les Shishisidre Mishnah, alors il y avait quelqu'un de proche de Rebbi qui s'appelait Rabbi Chia. Rabbi Chia, il est monté de Babylonie pour aider à Rebbi, pour sauver la Torah. Après, la Gemara nous raconte, Rabbi Chia et ses enfants-là, et ses deux enfants, ils ont sauvé le peuple juif. Rabbi Chia et ses enfants sont montés de Babel pour aider à Rebbi sauver la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'ils ont fini le Shish et Sidre Mishnah, Rabbi Chia, il est parti et il a acheté des grains de lin. Et il a planté les lins. Le lin. Alors ça poussait. Une fois que ça poussait, il a coupé, il a fabriqué des fils de lin. Après il a fait des fils. Après il a fait des filets. Avec ses filets, il a chassé des cerfs. Il a égorgé les cerfs, il a donné la viande aux pauvres, il a fait le parchemin, il a fabriqué du parchemin. Parchemin, il a coupé, il a écrit Chamish Chumash Torah. Sur un parchemin, c'est Fabrishit, l'autre Shmot, l'autre Vayikra, Bamidbar. Après, il a pris 6 parchemins, il a écrit les Shish Sidre Mishnah. Il a pris tout ça, il est parti dans une ville. Et ils ont appris aux enfants le Chumash et les Shish Sidre Mishnah. Après, ils sont partis dans une autre ville. Ils ont pris toujours un enfant. Toi, tu apprends tous ces Bereshit. Un autre, tous ces Farshamot. Un autre, c'est Fanezikim. L'autre, Mishnayot, Kochim, etc. Et après, ils sont partis. Maintenant, toi, tu enseignes à tous les autres enfants. Et on va partir dans une autre ville. Et après, ils ont fait le tour dans tout Eretz Israël. Grâce à ça, la Torah n'était pas oubliée. Alors, on pose une kushia. Qu'est-ce qu'il voulait Rabbi Chia? Il avait besoin d'écrire pour montrer aux enfants le texte. Mais le parchemin, on peut l'acheter, comme tous les juifs. Chaque juif qui veut écrire un Sefer Torah, il va fabriquer des filets, il va semer du lin pour fabriquer des filets, pour chasser des cerfs. Mais tu peux acheter des parchemins directement. Il y en a d'autres qui peuvent s'occuper. La réponse, elle est, quand on fabrique un objet, nous pensons, un objet, la qualité de l'objet, ça dépend de la connaissance de l'artisan. Cette table-là, il y a un menuisier. Bon, c'est un menuisier qui a bien coupé, qui connaissait son boulot. Il a mis ça. Bon, voilà, ça c'est une table. Maintenant, cet homme-là qui a fait cette table, la qualité de l'homme dans sa vie n'a pas d'importance, sauf ce qui concerne la qualité de menuiserie. C'est un bon menuisier qui a fabriqué. Si ce menuisier, il est tzaddik ou il n'est pas tzaddik, s'il est voleur ou il n'est pas voleur, s'il dit la vérité ou il ne dit pas la vérité, ça n'a aucune importance. Eh bien, cette table, c'est une table, il est bon. Ça, c'est quand on regarde les objets comme des simples objets. C'est un objet gâchmi, il me faut un artisan qui connaît son boulot bien. Mais les objets qui sont kadosh, la façon, l'intention qu'on met dedans quand on fabrique, l'objet change. Quand on écrit un Sefer Torah, elle n'est cachera que si on écrit l'Ishma pour Sefer Torah. On écrit des tefilines, il faut les écrire l'Ishma. Si quelqu'un veut apprendre à écrire, alors il apprend et par hasard il écrit un parasha des tefilines. Après, il dit, tiens, c'est bien sorti, je vais les utiliser pour tefillin. Mais quand tu as écrit, tu as pensé le shem tefillin? Non, j'ai pensé pour écrire, pour enseigner à mon fils. Eh bien, c'est pas kasher. La kavana pour tefillin donne la kedusha pour les tefillin. Comme ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut le faire lishma. Ça veut dire l'intention avec laquelle on fait un objet change la qualité, parfois si c'est kasher ou si c'est pas soul. Mais même si les tefillin sont kasher, il y a kasher et il y a mehoudar. Ça peut être dans sa façon extérieure, c'est une belle écriture, moins belle écriture, ou beaucoup d'autres choses qui font que les tefillin sont la khatrila, sont mehoudar, sont encore meilleurs. Mais la vérité, elle est que la qualité du sofer, si c'est un sofer, plus qu'il est tzaddik, plus ces tefillines, ils ont une quoi? Kasher, c'est kasher. Plus ils ont une influence sur la personne. Pourquoi? Parce que la personne peut charger la matière avec ses pensées et avec sa vie, avec sa personnalité, avec les mitzvot qu'il fait. On peut charger cet objet. Quand Yochevet, elle a fait ce bateau, quand elle a pris l'argile, elle a enduit avec de l'argile, c'est pas simplement elle a travaillé comme un menuisier travaille pour rendre imperméable. Elle se mit dans la tête toute la souffrance du peuple juif qui travaillait Bechomer ou Bilveinim. Elle a enduit, voilà, toi Moshe, je te fais maintenant ce que tous les enfants juifs, ils souffrent. Et va tassemba et taïelet, quand elle a mis l'enfant dedans, elle a mis l'enfant dedans, vas-y Moshe, maintenant sens un petit peu ce que les enfants, ils sentent. Et ça marchait, et Moshe, il a senti. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer, à hurler. Mais il n'a pas hurlé comme un bébé de 3 mois. Il a hurlé comme quelqu'un de beaucoup plus grand. Quand la fille de Paro va tiftach vetiret yelet, Vine Nahar Bouché. Mais c'est pas un bébé qui pleure. Mais c'est quelqu'un de grand qui pleure. Mais pourquoi il pleure comme ça? Un bébé, bon, quoi, il a faim. Oh, d'accord, alors qu'il pleure comme un bébé de 3 mois. Il a dit non, c'est pas un bébé. Parce qu'il ne pleure pas que pour lui. Mais Mialdei Ha'ivrimze, ce cri qu'il crie, ça vient des autres enfants juifs. Tous ces enfants juifs qui sont dans les murs, tous ces enfants juifs qui étaient jetés dans la mer et qui ont pleuré, qui ne voulaient pas se noyer, et beaucoup qui se sont noyés, qui ne peuvent plus pleurer, eh bien, mon cher Rabbeinu, c'est le Shliach Tzibur, c'est ça qu'elle a compris. Mial de Haïvrim, c'est ce cri, c'est le cri de tous les enfants juifs. Vatachmolalav, elle a dit, elle a compris que ce n'est pas un simple enfant. Ça, c'est un enfant qui ressent la souffrance du peuple juif. Et ça, c'est cette expérience. Yochevet, elle a voulu que Moshe, il le fait quand il est petit. Comme ça, il va grandir. Il va grandir dans le palais royal. Mais il sait en vérité ce que les juifs, ils souffrent. C'est pour ça que le texte, il dit, Vayigdal Moshe. C'est marqué 2 fois dans le texte, Vayigdal Moshe. Rashi explique la première fois, Vayigdal Moshe. Rashi explique le coma. Physiquement, il est devenu grand. La deuxième fois, Vayigdal Moshe. Rashi dit que Paro, il avait nommé Moshe pour gérer la maison de Paro. Ça veut dire, Vayigdal, il a donné une place extraordinaire dans le palais royal. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Vayetse Moshe Elechav. Lirot et Echav. Il est sorti pour voir ses frères. Tout de suite, il a compris, moi, personnellement, je suis au palais royal. Je peux manger, je suis protégé, j'ai pas froid, j'ai ni chaud, je suis bien. Maintenant, il faut que je revoie comment les Juifs, ils vivent. Ra'a, sivlotam, il a vu sivlotam. Ra'a, ça veut dire qu'il a, il a vécu le sable du peuple juif. C'est seulement quelqu'un de ce genre qui peut après donner la Torah. Même les Shivim Skenim, après Moshe Rabbeinu, ils se laissaient aider par 70 sages. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, qui yata yadata, qui aim zikneam, le shotrav, tu les connais les 70, qui sont les zikneam, les vieux du peuple, le shotrav et ses policiers. Ça veut dire quoi, tu connais? Rashi explique, c'est shotrav ben Israël qui est marqué dans la parasha Shemot. Vayuku Shotre ben Israël, les Égyptiens, ils demandaient aux Juifs de livrer tant et tant des briques, et s'ils ne livraient pas assez de briques, ils ont reçu des coups. Mais pas que les travailleurs, ils ont reçu des coups. Les Shotrim, ils ont reçu le coup. Ils ont dit aux policiers, frappez les Juifs pour qu'ils travaillent plus vite. Et les policiers ne voulaient pas frapper. On frappe pas un Juif. Mais si vous frappez pas, on va vous frapper. Eh bien, les Shotrim, ils ont reçu les coups. À ta yadat, à toi tu sais, qui aime Zikne Israël et Shotraf, toi tu connais ces Shotrim qui se sont laissés frapper pour pas frapper les Juifs, et bien ces Shotrim sont devenus après les Skenim. Parce que c'est quoi les Skenim? C'est quoi les gens de Sanhedrin? C'est quoi? C'est des gens. Des gens, des sages qui ont appris la Torah. Et qu'ils ont de kavod, ils sont bien. Non, c'est pas ça les skenim. C'est pas cela qui vont conduire les juifs. Conduire les juifs, il faut des gens qui ont reçu des coups pour les juifs. Qu'ils ont reçu des coups pour pas donner des coups aux juifs. Qu'ils ont souffert ce que les juifs, ils ont souffert. Parce que quand un homme, il les juge, pour juger quelqu'un, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un, ce qu'il est fautif. Ou est-ce qu'il n'est pas fautif? Il dit la vérité, il a menti. Et s'il a menti, pourquoi il a menti? Jusqu'à où il a menti? Qu'est-ce qu'il a amené à mentir? Jusqu'à où je dois le punir? Il est facile de punir des gens. Voilà, vous avez fait telle et telle chose, je punis. Mais attendez, monsieur le juge, vous étiez à ma position pour savoir qu'est-ce que moi j'ai vécu comme drame et comme situation et pourquoi. J'étais ici pas correct, vous à ma place, vous aurez, comment vous serez conduit? Ah, j'étais pas à ta place, je sais pas. Alors vous savez pas. Alors, alt dinet chamecha, a-t-il des guérims comme moi? Alors ne me jugez pas. Alors il faut que le juge, il peut bien faire entrer. Il peut se voir dans la situation de l'autre. Il a peut-être vécu ce genre de situation. Et il sait que oui, c'est vrai qu'il a fait un péché, mais peut-être le péché, il est pas très grand. Ou peut-être il est grand. Ça, il faut évoluer. La punition doit être d'après ce que vraiment l'autre y mérite. Donc il faut zikne un veshotra. Enfin, plus forte raison, mon cher Benou, que lui, c'est le juge de tous les juges. Lui, c'est le chacham de tous les chachamim. Lui, c'est le navi. Il doit participer à ce que le peuple juif participe. Donc ça, c'est ce que Yochem était là préparé ici. On va voir une autre chose. Dans Parshat Bo, le texte, il dit, il y avait 9 makot qui sont passées. 9 makas a passé, eh bien, on se préparait le 10e maka. Alors, le texte, il dit, Moshe Rabbeinu était devant Paro, il a dit, tu sais, Paro, ça y est, on va arriver au prochain coup. Makat Bachorot. Hachem, il va te donner un coup, ton fils va mourir, tous les fils aînés vont mourir, et il y aura un grand cri dans toute l'Égypte, et tu vas renvoyer les Juifs. Le texte, il dit, Paro, il s'est énervé grave. Et il a dit à Moshe, le jour que tu vas venir encore une fois chez moi, je te tue. Tu es un homme mort si tu viens encore une fois. Mais mon cher Ben est venu beaucoup de fois chez Paro. Avant chaque maka, il est venu pour l'avertir. Il y avait déjà 9 makot. Et chaque maka, il a averti une fois le matin, une fois l'après-midi. Et chaque avertissement durait 21 jours. C'est-à-dire 21 jours, une fois le matin, une fois le soir, ça fait 42 fois. Donc avant chaque maka, mon cher Ben, il est monté les 70 étages. Venu chez Paro, renvoie les Juifs, sinon Hachem va te frapper. Et chaque fois, 42 fois avant chaque fois, il discutait avec Paro. C'était une longue discussion avant chaque maca. Et Paro, il n'a jamais tué Moshe. Il aurait pu le tuer, non? Il ne supportait pas Moshe. Il était gravement fâché avec Moshe. Mais il ne l'a jamais tué. Et après la 9e maka, il lui a préparé, il a dit la 10e maka, il a dit, écoute, encore une fois que tu viens, eh ben t'es un homme mort. Pourquoi maintenant? Et pourquoi pas hier? Et pourquoi pas avant-hier? Je t'ai pas énervé hier, je t'ai énervé hier aussi. Ah, pourquoi il n'a jamais tué jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'il a changé? La 9e maka a changé quelque chose que Paro, il a décidé. On peut dire ici, il y a un truc. Entre avant la 9e maka et après la 9e maka, il y avait une différence. Le texte, il dit, « Vayiten Hashem etren ha'am be'einei Mitzrayim. Gam ha'ish Moshe gadol ma'od b'enei avdi Paro b'enei Ham, Dieu, il a fait d'une sorte que le peuple juif a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Ça veut dire quoi? Après la 9e maka, les Égyptiens, ils ont regardé sur les Juifs. Et tren ha'am. C'est des gens bien, ces Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien, ces Juifs? Comment ils regardaient autrefois? Au début de Parashat Shemot, il est marqué, Vayakutsu, Mipenei Bnei Israël. Ils se sont dégoûtés des Béné Israël. Ils en sont dégoûtés. Un juif est passé, l'Égyptien, il a vu les juifs, il voulait vomir devant lui. Il se dégoûtait. Et maintenant le texte, il dit, Chen ha'am Béné Mitzrayim. Mais qu'est-ce qu'ils sont charmants, les juifs. Mais c'est des gens bien. Et quand les juifs, il a dit, je peux emprunter un habit, je peux emprunter un bijou pour la fête que Dieu nous prépare, mais avec plaisir, je vous prête. Et hey, prêtez, vayashilum. Pourquoi? Mais vous êtes des gens extraordinaires. Tiens, on est des gens extraordinaires, je ne savais pas. On croyait que vous nous méprisez. Il y a un changement qui est intervenu. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a changé? Pas seulement. Les Juifs étaient changés. Les Égyptiens, ils étaient d'un coup d'autres personnes. Il y a une autre question sur le Chumash. Chumash, il raconte au Bnei Israël par où? Vayishretsu, Vayirbu, Vayatsmu, Bimaod Maod. Et les bénis Israël se sont multipliés. Vayishretsu. Comment on traduit Vayishretsu? Comment on traduit ce mot? Quoi? Ils pullulaient. Vayishretsu, ils pullulaient. C'est quoi la racine de ce mot? Hein? Sheretz. C'est quoi Sheretz?
Un insecte.
Un insecte ou Sheretz, ce mot insecte. Un rompon, un ver de terre, un cafard. Ils cafardaient. C'est joli de dire ça sur les Juifs. La Torah dit un mot un peu spécial. Ils ont Vayishretsu. Quand on entend un goy dire sur les Juifs, mais vous êtes comme des shratzim, c'est une insulte, non? Mais c'est comme des cafards. Et, oh là là, ils se multiplient, on dirait des vers de terre, on dirait des araignées, des cafards. Pourquoi la Torah parle comme ça? Parou, veyirbu, veyatsmu. Bon, c'est des mots jolis. Elle ne pouvait pas prendre un autre mot. Il fallait nous dire veyishretsu. Mais le pshat, il est qu'en vérité, chez les Juifs, il y avait des gens qui n'étaient pas très bien. Ils n'étaient pas très bien. Pas tous les Juifs en Égypte, ils étaient bien. 4/5 ne sont pas sortis d'Égypte. 4/5, ils sont morts pendant Makkah de Choshech. Ceux qui ne voulaient pas sortir ne sont pas sortis. Même ceux qui sont sortis, ils se sont rébellés souvent. Même ceux qui sont sortis, ils n'étaient pas des tzadikim. Mais ceux qui, la 4/5, ils étaient encore pires. La Torah utilise le langage vayishretsu parce qu'il y avait peut-être des juifs qui se sont comportés comme des shratzim, sont comportés d'une façon odieuse. Il y avait une partie des juifs qui étaient vayishretsu. Mais ceux-là, ils sont tous morts à la Makkah de Choshech. Après la Makkah de Choshech, eh bien, qui restait le 5e? C'était des gens bien. Et ici, le texte dit, « Vayiten Hashem et ren ha'am b'ene Mitzrayim. » Et les Juifs, ils étaient bien vus dans les yeux des Égyptiens. D'un coup, les Juifs, ils étaient bien vus. Pourquoi? Parce que ceux qui restaient, c'était des gens bien. Et d'un coup, les Égyptiens, ils ont dit, « Mais ils sont bien, les Juifs. » Pourquoi? Parce que les autres, ils ont disparu. Rashi raconte, ils ont disparu en Choshech. Pourquoi? Pour que les Égyptiens ne voient pas qu'il y a tellement beaucoup de voyous chez les Juifs. Pour que les Juifs puissent enterrer leurs morts sans que les Égyptiens soient au courant. Ils n'ont pas vu qu'ils sont morts. Mais l'air était propre. D'un coup, chez les Juifs, tous les gens qui ont survécu, ils étaient des gens bien. Donc, Vayiten Hashem et ren ha'am. Mais on va revenir maintenant à Paro. Qu'est-ce que Paro, il a dit après le 9e coup? Après le 9e coup, il a dit à Moshe, écoute, je ne te supporte plus. Encore une fois, tu viens, je te coupe la tête. Pourquoi il n'a pas parlé ça jusqu'à maintenant? Alors ici, il y a un truc. Il y a un mot de Gaon de Vilna qui dit, de la même façon que chaque aliment doit être protégé. Comment les aliments sont protégés quand ils poussent? Normalement, ils ont une écorce. Une orange, elle a une écorce. Une noix, elle a une écorce. Même la pomme, elle a une écorce. Ils ont tous des écorces, presque tous. Pourquoi? Ça sert à quoi? Protéger. Les épis, le blé, ça pousse dans des épis. Il y a une écorce autour. Pourquoi il faut protéger? Devant quoi il faut protéger? Devant toutes sortes de dangers. Si une orange, elle n'a pas de l'éplissure, il y a des maladies. Il y a des oiseaux, il y a des vers de terre, il y a l'intempérie, le froid, le chaud, la poussière qui tombe. Tout ça, ça va abîmer les fruits et les légumes. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh il a fait? Il a fait une protection. Qu'est-ce qu'il se passe cette protection? Le blé pousse, c'est protégé, comme ça les vers de terre ne peuvent pas manger. Une fois que c'est mûr, eh ben on coupe, on enlève, on donne ça aux animaux et on prend le bon. La noix, quand elle est mûre, elle tombe de l'arbre. Il y a une épluchure, ça tombe et ça sort. Mais en vérité, l'écorce protège l'aliment tant que l'aliment n'est pas mûr, tant qu'elle a besoin de pousser, eh ben c'est l'épluchure qui protège. Une fois que tout est mûr, l'épluchure, elle s'en va. Elle a fini son service, et on peut la jeter, on met aux animaux, à la poubelle. Elle n'a plus de service, et des fois, on peut encore l'utiliser pour quelque chose. Alors, le grand de Vilna, il a dit, chez les Juifs aussi, il y a des Juifs qui sont l'écorce pour des autres. Ils sont une écorce. Il y a des Juifs qui ne se comportent pas bien. Et ils sont... C'est une écorce. C'est une clipa en ivrite. C'est une clipa, celui-là. Mais une clipa, une écorce, protège l'aliment. Il a dit comme ça, c'est dans la Klal Israël. Il y a une écorce qui protège. Et comment ça se fait que l'écorce peut plus protéger que le fruit lui-même? Parce que c'est une autre sorte. C'est plus dur. Une noix, elle a une écorce qui est dure. L'orange, elle a une écorce qui est une autre matière. Elle est plus dure, elle peut protéger. Le fruit ne peut pas se protéger, mais Dieu peut lui protéger. Qu'est-ce qu'il se passait en Égypte? Paro, quand Moshe Rabbeinu il est venu, la première fois, il a dit, viens, on va, Moshe Rabbeinu dit, renvoie les Juifs. Il ne voulait pas renvoyer. Chachamim raconte, et on voit dans le Chumash aussi, que les conseillers des paroles, ils étaient partagés. Peut-être il faut les renvoyer. Renvoyez-les, sinon c'est... À fur et à mesure, l'Égypte était perdue de plus en plus, mais de plus en plus, il y a des conseillers des paroles qui ont dit il faut les renvoyer. Mais il ne les a pas renvoyés. Pourquoi il ne les a pas renvoyés? En vérité, il y avait des Juifs qui étaient des traîtres. Là, on raconte Datan et Aviram. Datan et Aviram, qu'ils ont raconté, ils ont parlé mal de Moshe pour qu'il sera, ils voulaient l'assassiner, Moshe. Alors Paro, il y avait des Juifs comme ça, des Juifs du cours. Paro dit aux Juifs, à ces gens-là, qu'est-ce que vous conseillez? Je les renvoie, je les renvoie pas. Non, il faut pas renvoyer les Juifs. Et ce Moshe-là, il me casse les pieds là, chaque jour il vient. J'ai envie de le tuer. Ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine de tuer? On voit qu'il ne l'a pas tué. Pourquoi il ne l'a pas tué? Parce que il y avait des gens qui ont dit c'est pas la peine de le tuer, ce monsieur. Parce que si vous le tuez, ça donne une rébellion. Les Juifs vont se rebeller. Vous voulez la rébellion, qu'il y a des millions de gens ils vont se lever contre vous. Et alors, mais j'ai peur que ce Moshe, à la fin, il va les embrouiller. Nous, on va déjà faire d'une sorte qu'ils ne vont pas partir. Laissez-nous faire. Il y a comme ça des Juifs. Il y a des Juifs que malheureusement, ils vont leurs propres frères pour de l'argent, pour être bien vus. Quand Datan et Aviram, ils se sont disputés à Moshe, il a dit, « Racha lamatakerecha. » Qu'est-ce qu'il a dit Datan à Moshe? « Halahorgeini ata misamcha lesar veshofet aleinu. » Mais qui t'a nommé chef sur nous? Tu veux me tuer comme hier tu as tué l'Égyptien? Va dire à Moshe. Il a dit, oh là là, il a peur. Achenodaha davar. Aïe, la chose, elle se sut. Et ils sont partis chez Paro raconter. Pourquoi ils ont raconté à Paro? Qu'est-ce qu'ils ont gagné de parler mal de Moshe? Et Moshe était obligé de suivre. Il est parti vers Tzmidian. Le match de sa vie, Moshe était éloigné du peuple juif. Qu'est-ce qu'ils ont gagné d'Atan Baviram? Eh bien, ils ont gagné d'argent, ils ont gagné du kavod, ils ont gagné à attirer la main protectrice de Paro. Paro, il donnait de l'argent. Qui est des juifs qui peut me raconter un peu de la chanara sur les juifs? Il y a des gouverneurs, ils payent de l'argent, ou de pas gouverneurs, ils payent de l'argent aux juifs. Voulez-vous gagner d'argent? Parlez la sonara sur des juifs. Racontez-moi du mal sur des juifs. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé que les goyim ont proposé. Et ça a toujours existé, malheureusement, des juifs qui étaient des traîtres. On dit, la malchine et maltéti, quoi, c'était toujours un grand Datan. Baviram faisait partie de ces gens-là. Mais, il faut savoir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il fait bien. Même si nous, nous pensons que c'est mal, et même que la chose elle est mal, mais dans un regard plus profond, il y a dedans le plan divin. Toutes les choses qui sont mal, ils ont aussi un autre regard que c'est bien. Quand Paro il a dit aux Juifs, je le tue ou je le tue pas ce Moshe? Ils ont dit, ne le tuez pas. Ça va faire que des rébellions chez les Juifs. Vous avez peur qu'il va demander aux Juifs de partir? Nous, on dit aux Juifs de ne pas partir. Mais si vraiment il va se préparer de partir, nous allons nous occuper de le tuer, ce Moshe. N'ayez pas peur. On va le tuer. Il peut pas nous échapper. Pour le moment, ça va pas la peine de le tuer. Ça, c'était tout le temps. Il y avait 4/5 des Juifs. Que Paro, il a vu qu'ils ne veulent pas partir. Ces 4/5 ne voulaient pas partir. Et ces 4/5 étaient proches du gouvernement, la Midrash raconte. Alors, Paro, il a dit, bon, c'est pas encore... Il me rassure. Qu'est-ce qui se passait après l'histoire de Rocher? Après l'histoire de Rocher, les 4/5 sont morts. Tous les Juifs voyous sont morts. Ils sont morts. Alors, Paro, dans son palais, ses conseillers juifs, ils n'étaient plus là. Où sont ses conseillers juifs? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils sont morts. Ils sont absents. Et Moshe Rabbeinu, encore une fois, il parle. Et Paro, il dit, il faut liquider celui-là. Mais où sont mes amis juifs qui étaient contre lui? Ils ne sont plus là. Ah, maintenant c'est dangereux. Et maintenant je vais te tuer. Je ne peux plus compter sur personne. Là, il s'est énervé, il a dit, tu vas me voir encore une fois, je vais te tuer, parce qu'il s'est senti abandonné. Et cette histoire-là existe aujourd'hui aussi. Des fois, on voit malheureusement des juifs qui parlent mal d'autres. Et ils parlent mal devant les goyim. Et c'est très énervant, c'est très dérangeant. Mais, grâce à ces voyous juifs, les goyim, des fois, ils disent, bon, on n'a pas besoin d'avoir peur des juifs, parce que de toute façon, les juifs, c'est des voyous. Ils ne savent pas que même eux, ils ne sont pas seulement manipulés par les goyim, ils sont aussi manipulés que Bayachol d'Akadash Baruch Hu. Baruch Hu utilise des juifs tordus pour protéger d'autres juifs. Ça, c'est l'Inyan de Klipa. Une clipa, tant que le peuple juif n'est pas mûr, il faut. Il y a, mais à quel moment on les utilise pour protéger. Et ça a été ici, déjà en Égypte comme ça. Je dirai encore un mot sur Parshat Ve'era. Parshat Ve'era, il est marqué au début de la Parsha, la reine. Shem a dit à Moshe, j'ai vu la souffrance du peuple juif. Votsi etre mitachat siblot mitzrayim. Itzialti otam me'avodotam. Vegalti otam beyat chazaka. Velakachti otam li la'am. Vetzeti, vitzalti, vegalti, velakachti. Il y a 4 expressions. Je vais sauver, je vais faire sortir les juifs. Et je vais prendre les juifs pour mon peuple. Très bien. Ce sont 4 expressions. Comme on disait, la nuit de Pessah, on boit 4 coupes. Première coupe, c'est la coupe de Kiddush. Deuxième coupe, c'est Baruch Hashem Gaal Israël, avant qu'on mange le matzah. Troisième coupe, c'est de Birkat Amazon. Quatrième coupe, à la fin du Hallel. Ces 4 coupes, Chacham, ils ont instauré, parce qu'on remercie Hashem avec chaque coupe, on boit le Chaim, on se réjouit qu'Hashem, il a tenu sa promesse qu'il a promis faire les 4 expressions de délivrance et 4 étapes. Donc, on voit un coupe de vin. Arba kasot keneged arba lashonot shel geula. Maintenant, le premier coupe, on dit un texte dessus. C'est pas on boit comme ça de vin. On dit un texte, on dit le kiddush. Shabbach arba nemekolam, on fait le titre. Très bien. Le deuxième texte, eh bien, c'est la Haggadah. On raconte Yetziat Mitzrayim, Haman, Ishtana, etc. Et à la fin, on dit Gaal Israël. Mais avant Gaal Israël, on commence à chanter le Hallel. On commence à la Luka, on commence le Hallel. Après, on fait hamotzi, on mange, on boit la troisième coupe. Et après, gomrim a revii, gomrim alav et halel, on termine le halel. Maintenant, on commence donc pour le deuxième coupe, et on termine le halel au quatrième coupe. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, on commence le halel? Jusqu'à où on commence? Qu'est-ce qu'on dit avant le manger, et qu'est-ce qu'on dit après le manger? Après le manger, gomrim, on termine, et on commence au début avec quoi? Il y a deux avis, Beit Shammai et Beit Hillel. Beit Shammai disent, on dit le premier chapitre, Hallelu, Hallelu, Avdi Hashem, Hallelu, le premier chapitre jusqu'à Em Habanim Semecha. Ça c'est Beit Shammai. Beit Hillel disent, on dit le premier et le deuxième chapitre, Beit Zet Israël Mimitzrayim, Beit Yaakov Me'amloez, Haïtou le Kodesho, c'est le deuxième chapitre aussi. Et après on s'arrête, on dit Baruch Hashem Gal Israël. Donc ça c'est la machok et Beit Shammai et Beit Hillel. Ici il y a une question. Beit Shammai et Beit Hillel, c'était les plus grands chachamim qui existaient au peuple juif. Et ils se disputent. Quand des grands rabbinim se disputent, on se dispute sur quoi? Sur quelque chose d'important, non? On se dispute pas sur... Mais qu'est-ce que ça change si on dit le premier chapitre ou on dit le premier et le deuxième chapitre? Ça vaut la peine de se disputer pour ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment ça fonctionne? Chacham, ils n'ont rien d'autre à faire dans la vie. On se... Non, c'est pas le premier, c'est le premier deux chapitres. Non, il faut pas dire deuxième chapitre, il faut dire qu'un chapitre, le deuxième chapitre, on va laisser pour après. Qu'est-ce que ça change? Ah, ça, comment ça finit? Pour nous, on voit pas à quoi ça rime. Ça rime à quoi, ce dispute? Mais le pshat, il est évidemment... Beit Shammai et Beit Hillel ne se disputent pas pour rien. Ici, il y a quelque chose de très profond qui est caché. Il y a... Le deuxième chapitre parle de quoi? Beit Zet Israël et Mimitzrayim. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte. Beit Zet Israël et Mimitzrayim. Ben Yaakov. Me'am Loez. Haïta Yehuda Lakotcho. Israël Mam Shelotav. Hayam Ra'av Hayanos. הירדן יסוב לאחור, ההרים רקדו חיילים, גבעות כנצון, מהלך הים כתנוס, הירדן תיסוב לאחור, ההרים תרקדו חיילים כנצון. De quoi on parle? Les Juifs sont sortis d'Égypte. On parle de Kriyat Yam Souf. Et on parle des montagnes qui dansent comme des moutons. Mais quelle montagne danse comme les moutons? Mais pourquoi les montagnes? מהלך Pourquoi vous dansez comme des béliers, comme des moutons? Devant Hachem qui est venu sur ces montagnes. À quel moment les montagnes dansaient? Ils tremblaient. Au matin de Torah. Donc dans Beit Zet Israël, on parle de la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge et de matin de Torah. Donc on remercie ici pour le matin de Torah. À quel moment il faut remercier le matin de Torah? Au premier, deuxième, troisième ou quatrième coupe. Il y a quatre expressions. Vohotzeti otam mitachat sivlot mitzrayim, mitzalti otam me avodatam, vegalti atam, comment ça marque les suites, vegalti otam, j'ai oublié la prochaine expression, velakachti otam li laam, et je les prends pour moi, pour mon peuple. À quel moment Hachem a pris les Juifs comme peuple? Au matin de Torah. Donc les premières trois expressions sont pour la sortie d'Égypte. Et la quatrième expression, la quatrième, Hachem nous a pris comme son peuple le jour de matin de Torah. Maintenant, le premier coupe, c'est le Kiddush. Le deuxième, on raconte la sortie d'Égypte. Après, on mange la matzah, le maror, pour la sortie d'Égypte. Et on boit la troisième coupe dessus. Donc c'est les trois coupes pour les trois expressions de la sortie. Le quatrième coupe, c'est pour Belakarti, c'est pour recevoir la Torah. Ça c'est le quatrième coupe. Donc le Beit Zet Israël Mimitzrayim, on doit le dire à quel moment? Au premier trois coupes ou au quatrième coupe? Il faut le dire au quatrième. C'est ce que Beit Shammai dit. Peut-être, Israël, tu parles des Matan Torah, mais les Matan Torah fait partie de la quatrième coupe qui est en face, qui était instaurée pour la carte Yatrem Lilam. Arrive Beth Hillel, il dit non, monsieur. Ce deuxième chapitre, sa place, elle est quand on boit le deuxième coupe. Pourquoi? C'est quoi la logique de Beth Hillel? Alors, il faut savoir que cette machloket Beth Shammai Beth Hillel dépend en vérité d'une autre machloket. Très grande machloket. De quoi il s'agit? Un homme, il vient à la yeshiva, il veut étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Baruch haba. Vous voulez étudier? Oui, monsieur. Pourquoi? Ben, je veux connaître la Torah de Dieu. Baruch haba, entrez. Voilà, vous avez des livrets. Je vais écouter les shiurim de Rabbanim. Ben, écoutez. Ben, écoutez, étudiez. Je veux faire chavruta. Ben, faites chavruta. Très bien. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait quand un voyou vient? Elle arrive un voyou. Il vient, je vais étudier. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, vous voulez vous comporter comment? Moi, je suis bien, moi. Vous respectez Shabbat? Ouais, ouais. Vous êtes honnête? Ouais, ouais. Et moi, je sais qu'il n'est pas honnête. C'est un truand. Il fait des péchés. Waouh, waouh. Quel hypocrite celui-là. On le fait rentrer, on ne le fait pas rentrer. Qu'est-ce que vous dites?
Il a sa chance. On voit pourquoi d'abord.
Hein? Il faut lui donner sa chance. Quoi?
On lui demande pourquoi il veut étudier.
Je veux étudier parce que je veux aussi connaître la Torah.
Ouais. Non, il faut quand même lui donner.
Hein?
Faut quand même lui donner.
Faut lui donner la chance. Il faut lui donner la chance. Pourquoi pas? Est-ce que ça peut sortir quelque chose de mal? Hein?
Oui.
Quoi?
L'influence de la yeshiva.
L'influence à la yeshiva. Il peut influencer les autres. Et si on va lui faire un cours privé? Monsieur, je veux étudier privé avec vous. Pourquoi je veux devenir Tamit Racham? Vous vous comportez bien, super bien, mais moi je sais qu'il ment comme il respire. Ça, il travaille dans la mafia. C'est un mafionnaire. Il veut devenir Tamit Racham. C'est bon ou c'est mauvais?
Mais la Torah, elle va le changer, c'est connu.
Quoi?
La Torah, elle va le changer.
La Torah va le changer. Il va sortir de tzaddik.
C'est mon tzaddik, mais il va au moins déjà commencer à regretter.
Il va commencer à regretter. Vous êtes sûr?
Non, pas obligatoirement.
Ah, vous êtes pas sûr. Peut-être quoi?
Peut-être
il va rester mafionnaire. Et s'il est mafionnaire, c'est mieux qu'il sera Tamit Racham ou Am Haaretz?
Am Haaretz.
Pourquoi?
Parce qu'il est dangereux s'il est à Torah.
Pourquoi il est dangereux?
Il peut influencer les autres.
Non, il connaît.
Il connaît. Les gens vont lui donner un crédit. Les gens vont dire, regarde, il connaît la Torah. Et après, il se comporte. Un grand voleur. Les gens vont dire, ah, c'est ça qu'ils apprennent à la yeshiva. Si un homme est un mitracham, et il est voleur, et il se comporte mal, c'est un chilul Hashem. Les gens ils vont dire, eh bien, la Torah n'est pas contre les pécheurs. Moi, je connais, je connais plein de gens, ils ont fait la yeshiva, ils font les 400 coups. Mais non, la Torah n'est pas contre les pécheurs. C'est compatible. Ça, c'est un chilul Hashem. Valait mieux que quoi, que ces gens-là sont des maratsim. Marqué dans la Gemara Yuma, un homme qui étudie la Torah et qui se comporte bien, et vous inquiétez de Hachem. Et s'il se comporte mal, les gens ils vont dire, regarde à quoi ça sert d'enseigner la Torah, à quoi ça sert la Torah, mais regarde qu'est-ce que ça donne comme fruit. Alors quand un voyou vient chez nous, il veut venir à la yeshiva, qu'est-ce que je dois penser? Je lui enseigne la Torah ou pas? Si j'étais sûr que quoi? Qu'il va devenir bien, que la Torah va le changer, alors il faut que je lui apprends. Si je suis sûr qu'il ne va pas changer, Mieux vaut qu'il n'étudie pas. Et si je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Alors sur ça, il y a Machloket Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai, ils disent, on n'accepte pas. D'abord, tu changes ton comportement. Tu ne rentres pas comme ça. Non. Hier soir, on a tant entendu qu'est-ce que tu as fait, tu ne rentres pas là, ici. Va. Tu vas te comporter bien, tu vas venir, sinon tu ne viens pas. On a trop peur que tu vas devenir un voyou, et après il y aura un chilou lâché. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel, ils disent non, laisse-le rentrer. Combien de gens on a vu des voyous, on a devenu étudier, sortir de syndicat. Il faut lui donner la chance en espérant qu'il va sortir bien. Ça, c'est un machlok et Bet Shammai Bet Hillel. La Gemara nous raconte, à l'époque de Rabban Gamliel, quand les yeshivas étaient à Yavne, Rabban Gamliel était le chef. Il ne laissait pas rentrer les gens tordus. Il interdisait. Après, il y avait une histoire que Rabban Gamliel, ils l'ont destitué. Ils ont nommé Rabbi Elazar ben Azaria comme chef. Et quand Rabbi Elazar ben Azaria est devenu le chef, il a dit, laissez rentrer tout le monde. C'est fini cette numerus clausus, on enlève tout ça. Ceux qui veulent rentrer, qui rentrent. Ils ont ajouté ou 400 bons ou 700 bons. Ça veut dire des milliers de gens sont venus étudier qui ne pouvaient pas étudier avant à la yeshiva. Rabbi Elazar ben Azaria les a acceptés. Sur quoi est basé ces deux avis? Rabbi Gamliel faisait comme Bet Shammai. Et Rabbi Elazar ben Azaria faisait comme Bet Hillel. C'est un peu intéressant. Rabbi Gamliel est de la famille des Hillel. Il était élevé par Bet Hillel. Donc il aurait dû se comporter comme Bet Hillel. Et Rabbi Gamliel, tant qu'il était le président de Bet Hamidrash, il a dit non, on fait comme Bet Shammai. Pourquoi Rabbi Gamliel fait comme Bet Shammai? Après qu'ils l'ont destitué, Rabbi Elazar ben Azaria, il a fait comme Bet Hillel. Et pourquoi Rabbi Gamliel a fait comme Bet Shammai? Parce que Rabbi Gamliel était spécial. Parce que c'est marqué dans la Gemara, à l'époque de Rabbi Gamliel, ça se propageait la apikorsut. Il y avait des gens qui étudiaient, sont devenus apikorsim, l'amalchinim, sont devenus des juifs voyous. Et Rabbi Gamliel l'a instauré vers l'amalchinim, altiitikwa, le birkataminim. Qu'on souhaite à Hachem que les minimes n'ont pas de réussite, minimes, c'est les apikorsim, c'est Rabbi Gamliel et son bedin, ils ont instauré. Il a vécu dans une époque très dangereuse, c'était après le Khorban du Beth Amikdash, tout de suite après, quand ça commençait, les hérésies commençaient à pulluler chez les juifs. Donc Rabbi Gamliel avait peur, si tu ne te comportes pas bien, tu ne viens pas étudier. Reste à Maharet, c'est mieux. Il ne faut pas venir pour après interpréter la Torah faux et faire dévier les juifs. On n'a pas besoin des gens comme ça. C'est pour ça que Rabbi Gamliel, il faisait comme Bet Shammai. Après, Rabbi Elazar a dit, laisse rentrer, en nous espérant qu'ils vont faire teshuvah. Cette machloket Bet Shammai Bet Hillel, c'est ça que notre Mishnah nous parle pour Betzet Yisrael Mimitzrayim. Est-ce qu'on le lit avant le deuxième coupe ou est-ce qu'on le lit avant le quatrième coupe? Bet Shammai dit, on dit que le premier chapitre de Hallel au deuxième coupe. Le Betzet Israël, on laisse après le repas. Quand on va arriver à Valakarti et Chemli Leham, ça c'est le Matan Torah. Qu'est-ce qu'il se passait entre la sortie d'Égypte et Matan Torah? 7 semaines où les Juifs se sont élevés. Les Juifs sont sortis d'Égypte, ils étaient dans une situation catastrophique. Il y avait 7 semaines et les 7 semaines, ils ont changé les Juifs. Jusqu'ils sont arrivés au Matan Torah. Il fallait changer les midot, changer le comportement. Hachem n'a pas donné la Torah le lendemain de la sortie d'Égypte. Ils étaient, on raconte, ils étaient pleins de péchés. On ne peut pas donner comme ça la Torah. Attends, les 7 semaines, chaque semaine, ils avaient une nouvelle Kedusha jusqu'à arriver au Matan Torah. Donc, pour donner la Torah, il faut déjà être de qualité. Donc, le Betzet Israël, les montagnes ont tremblé. Hachem, il a donné la Torah. De ça, il faut parler avant le quatrième coupe. Quand on prépare vers la carte, etrem, li, l'âme, je vais vous prendre comme peuple, je vais vous donner la Torah. Ici, on parle de la Torah quand ça a fini les 7 semaines. Bet Hillel, ils disent non. Il faut parler des Betzet Israël déjà au deuxième coupe. Mais en deuxième coupe, on n'est pas encore vraiment sorti d'Égypte, on est encore en plein balagan. Et ils avaient plein de défauts, les Juifs. Maintenant, il faut déjà parler de Matan Torah. Parce que le Shita de Beit Hillel, on enseigne la Torah même à des gens tordus. On espère que le fait qu'on lui donne la Torah, ça va le changer. Et ça, c'est pour ça que Beit Hillel dit, dites le Beit Israël avant, c'est bon. C'est bon, parle déjà de donner la Torah aux gens. Ils sont encore en plein transformation. Ils sont encore peut-être, même Tetchar et Touma, donne-lui déjà la Torah, et ça va déjà lui aider. Donc on dit Betzet Israël ici. Betzema, il dit non. Le Betzet Israël, il faut le faire après. Donc dans cette petite machloket, entre guillemets, cette machloket, on va dire, c'est rien, Betzet Israël ici ou ici, mais c'est bonnet bleu, bonnet, c'est la même chose, c'est pas la même chose ici. Il y en a deux avis dessus pour comprendre à qui on enseigne la Torah, à quel moment on peut enseigner la Torah. Bon, ça va être tout.